Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Henri Amouroux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, journaliste, chroniqueur au Figaro, membre de l'Académie des sciences morales et politiques et auteur de nombreux ouvrages d'histoire et de reportages notamment. Et vous venez de signer un livre qui s'intitule « Trois fins de règne, les règnes de Charles de Gaulle, de François Mitterrand et de Jacques Chirac ». C'est un livre aux éditions Jean-Claude Lattès. Nous avons parcouru précédemment les fins de règne de Charles de Gaulle et de François Mitterrand. Venons-en à présent à notre troisième personnage qui se nomme Jacques Chirac. Jacques Chirac ou comment bien finir? C'est ainsi que vous intitulez ce troisième chapitre.
Oui.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il y a encore trois mois, quatre mois, lorsqu'on demandait que restera-t-il de Jacques Chirac, on vous disait les affaires. Moi, je trouvais ça très, très choquant. Je ne suis pas chiracien, mais je pense qu'un historien, il est ridicule de ne pas penser à un événement essentiel. Jacques Chirac a fait que la France ne s'est pas engagée dans la guerre en Irak. Et c'est l'événement le plus important, à mon avis. L'un des événements les plus importants.
Le seul, peut-être ?
Non, pas le seul, mais l'un des événements importants. Nous cédons beaucoup trop au journalisme. L'histoire et le journalisme sont deux disciplines différentes. Je suis journaliste, je suis historien, je l'espère du moins, et ce sont des choses très différentes. Très différentes, et regardez, on a parlé abondamment afin de savoir si Jacques Chirac avait ou n'avait pas, le président de la République avait ou n'avait pas une prothèse auditive. Ça n'a strictement aucune importance, aucun intérêt. Ça ne vaut pas qu'on consacre à ce mini-événement, il a raison s'il entend mal, d'avoir une prothèse auditive, comme s'il voit mal d'avoir des lunettes. Ben non, on a consacré du temps, on a interrogé, presque torturé, il est difficile à torturer Madame Bachelot pour savoir si elle avait dit pourquoi elle avait lâché cette révélation. En revanche, le fait que nous, la France, par lui, ait tenu tête aux États-Unis, que la vieille Europe se soit regroupée autour de la France, avec la France, l'Allemagne, la Russie, pour dire non, nous avons souffert, nous avons subi les guerres, nous savons ce que c'est. Et ce sont les Américains qui disaient la vieille Europe, c'était un mot de blâme, c'était un mot qui disait oui, nous sommes nous les jeunes, et vous, vous êtes des vieillards à la traîne. Et aujourd'hui, quatre ans après, à qui donne-t-on raison? À la vieille Europe ou aux gens qui se sont engagés dans cette folle aventure dont on ne voit pas la fin et dont on ne voit pas la sortie possible avant je ne sais combien d'années? Bon, et qui empoisonne par contagion, empoisonne le monde entier par contagion. Eh bien, Jacques Chirac a pris cette décision. Elle n'était pas facile à prendre. La pente de la facilité sur tous les plans était de dire oui. Regardez les Polonais, ils ont dit oui tout de suite. Ils ont acheté des avions américains plutôt que des avions français. Ils entrent dans l'Europe et ils achètent des avions américains en ce moment-là. Et ils adhèrent tout de suite à la guerre en Irak à côté avec les Américains. Non. Alors, comment bien finir? Jacques Chirac, qui est un homme d'ambition, de volonté, de dédiabisme et d'ambition, bien sûr, depuis toujours, il voulait être président de la République. Ce n'est pas du tout blâmable de vouloir être président de la République. Il faut simplement que les électeurs vous élisent. Mais il était encombré par un tas d'affaires qui avaient une importance certaine, mais auquel la presse aidant donne une importance grandissante, qui font qu'on oublie tout le reste, qu'on ne regarde plus que ça, qu'on ne parle plus que de ça. D'abord parce qu'il est plus facile de parler d'une affaire, d'HLM, d'une affaire de... On a fait, quand il est allé prendre des vacances à l'île Maurice, le fait qu'il se soit fait masser, s'est fait masser. Mais dans ma vie, moi aussi, je me suis fait masser. Alors moi, je ne compte pas. Mais que, on a fait, il y a eu dans Le Monde un article remarquable d'écriture, mais terrible, mais enfin consacré tant de lignes d'un homme le journaliste avait beaucoup de talent, tant de lignes au fait qu'il se soit fait masser à l'huile de je ne sais pas quoi, de Benjoin, si ça existe. Ça ne tient pas la route, mais malheureusement, c'est à ça qu'on attache l'importance. Et aux affaires. Et depuis des mois, 3 mois, 4 mois, il a fait en sorte, depuis sa maladie aussi, il a eu sa maladie, c'est cette espèce de coupure qui a fait que les Français, on a arrêté un peu de parler de tout ça. L'échec avec les étudiants. Mais dès que vous parlez du mot réforme, dès que vous lancez les mots réforme, sans dire ce que sera la réforme, dès que vous écrivez le mot réforme, avant même qu'on dise ce que sera la réforme, vous avez déjà les étudiants dans la rue parce qu'on les a lancés dans la rue. Souvent leurs professeurs qui ne font plus leur métier de professeur. Oui. Certains font des métiers d'agitateurs, ils ne font plus les métiers de professeurs, d'enseignants. Alors, bon, il y a eu ça, cet échec.
Et comme plusieurs échecs. Au plusieurs point où vous échecs. Vous demandez dans le livre s'il est maladroit ou malchanceux.
Ben oui, s'il est maladroit ou malchanceux.
De rater une dissolution, de rater un référendum.
Il fait sa dissolution idiote. Pourquoi l'a-t-il fait ? J'en sais rien. Mal inspiré. Il lui a manqué peut-être un mentor. Il lui a manqué peut-être autour de lui quelqu'un qui lui donnait de bons conseils.
Dans le livre, vous demandez à plusieurs reprises. Vous exclamez, quel grand président il aurait pu être.
Oui, c'est vrai, absolument. Je le pense, il avait tout pour ça. Il avait la force physique, la volonté, l'ambition. Et puis, bon, il fait des trucs qui ne sont pas bien. Lorsqu'il trahit Chaban au profit de Giscard, et avec les 43, et lorsqu'il y a ce complot avec Mitterrand, où il est reçu par Edith Cresson, invité par Edith Cresson, pour un dîner que j'ai raconté dans mon livre, et qu'Edith Cresson a d'ailleurs raconté beaucoup plus longuement dans son livre. Tout ça ne plaît pas. Vous comprenez, la politique, c'est réussir par des moyens qui sont quelquefois bas, vulgaires. Pas très avouable. Si on réussissait que par des moyens angéliques, ça serait merveilleux, mais on ne réussit pas par des moyens angéliques. Alors, chez Chirac, il y a beaucoup de choses qui sont critiquables, qui ont été critiquées, mises en valeur. Et à côté de ça, bon, c'est un homme très généreux. C'est un homme qui est très attentif aux autres, au malheur des autres. J'ai écrit, à la fin, j'ai raconté une histoire que j'ai connue, vécue personnellement, qui ne me touchait pas, mais qui touchait mes confrères journalistes, et qui n'en fait, il fait pas étalage de sa générosité vraiment foncière. Il y a, comme tout homme, n'est-ce pas, est-il bon, est-il méchant ? Vous savez, c'est la pièce de Diderot qui n'a jamais été jouée, je crois, mais qui a été publiée après la mort de Diderot, qui s'appelle « Est-il bon, est-il méchant ?» Il y a tout. Vous ne pouvez pas réussir innocemment. Vous ne pouvez pas réussir innocemment. Mais sa sortie, qu'est-ce que c'est sa sortie ? C'est pas tellement la cérémonie de l'autre jour. Sa sortie, c'est au Stade de France, pour la finale.
De la coupe ?
De la coupe. Il y a 80 000 personnes qui applaudissent. Et là, c'est le dernier bain de foule. Et il va serrer les mains longuement, plus longuement qu'il n'a jamais fait, à tous les joueurs de football qui sont là. Et peut-être encore plus longuement à ceux qui sont noirs. Parce qu'il a toujours défendu ça. Il a toujours été là-dessus formel. Contre tout ce qui était l'hostilité à la race, à la couleur, à la religion. Il a toujours été formel là-dessus. Et donc, il finit là avec ça. Il finit avec la revue du 8 mai. Et il finit après avec l'hommage, avec la cérémonie du Luxembourg pour le deuxième anniversaire de la loi Taubira.
Sur l'abolition de l'esclavage. Pourtant, vous notez bien que lors de son allocution télévisée du 11 mars 2007, cette allocution est empreinte d'émotion du côté de Jacques Chirac, mais peut-être pas de l'autre côté de l'écran télévisé, du côté des Français. Oui. Au contraire, des fins de règne de Gaulle ou de Mitterrand, où on sentait une émotion très palpable dans la population.
La fin de règne de Gaulle. J'essaie, là, en vous parlant, de me souvenir. souvenir. C'était un choc auquel on s'attendait, puisque le vendredi, le général de Gaulle a dit « Si vous ne votez pas oui, je partirai ». Ben, les gens n'ont pas voté oui. Il y a eu un choc plutôt qu'une émotion. Et un vide, une impression de vide. Le général de Gaulle est parti, mais comme il n'a rien dit, c'est pas manifesté, on n'a pas revu. Il n'y a pas eu de passation de pouvoir. Hein. Il n'y a pas eu de passation. Il a démissionné. Donc la loi a joué, la Constitution a joué, il a été remplacé par le président Poher, président du Sénat. Donc il n'y a pas eu tout le zinzin, tout le grand truc, les manifestations, les gardes républicains, le passage, le tapis rouge. Non, rien du tout. C'était un vide. Chez M. Mitterrand, c'était tellement attendu, vous comprenez, on le voyait presque mourir à chaque fois qu'il se manifestait, vous comprenez. Il y a eu un face-à-face tragique avec Philippe Seguin et des Français un an avant. Et Philippe Seguin, auquel j'en ai parlé, M. Philippe Seguin, m'avait dit, on reprochait à Philippe Seguin de ne pas avoir été offensif, de ne pas avoir été comme ça, pam, pam, pam. Il disait, si vous aviez vu dans quel état était le président de la République, vous ne vous seriez pas comporté autrement que moi. Donc, on s'y attendait, ce n'est pas comme ça. Non, chacun, ça a été différent. Chez Jacques Chirac, c'était plein de... Oui, lui était très ému. Moins. On savait qu'il partait. C'était normal. Il n'allait pas. À un moment donné, on a tenté de laisser croire jusqu'à sa maladie qu'il allait se représenter, puis après, non. Et puis... Il y avait Sarkozy qui avait imposé sa volonté. Le véritable passage, la véritable fin de Jacques Chirac, c'est le moment où Sarkozy a dit qu'il se représenterait, qu'il se présenterait, et où il a pris, en janvier, où il a pris le parti majoritaire. Exactement.
Comme lui avait pris le RPR.
Avait pris avec le RPR. Quand vous avez le parti majoritaire, vous avez les réseaux. Vous avez l'argent, c'est pas négligeable, les réseaux, c'est pas négligeable, l'argent. Vous avez tout. Et vous pouvez alors vous présenter et mener le jeu. Il savait bien qu'il ne pouvait pas se représenter. Il n'avait ni le parti, ni tout ça. Et il y avait eu cette atteinte de maladie, cette alarme. Le tocsin qui sonne à un moment. Vous savez, tic-tic. Pour chaque homme, à un moment donné, pour chaque homme, chaque femme, chaque individu, à un moment donné, il y a une cloche qui sonne. Qui dit « Tu vas pas trop loin, tu arrêtes ». Il y a des hommes qui savent démissionner à temps, hein, et il y a des hommes qui ne savent pas démissionner à temps, et qui veulent continuer à se prolonger. Et ça finit généralement très mal. Et lui, il finit bien. Il finit bien. J'ose espérer que personne n'aura l'idée d'aller faire un procès, de rechercher les HLM de la ville de Paris, de ceci ou de cela, parce que par-delà, l'homme politique Jacques Chirac, c'est la France qu'on atteindrait, c'est l'image de la France qu'on atteindrait. Bien sûr, chez tous les hommes politiques, on peut trouver quelque chose, tous. Les affaires n'ont pas commencé avec Chirac, n'ont pas commencé avec Mitterrand. Les affaires, il y en a toujours eu, il y en avait sous le Second Empire, il y en avait sous la Troisième République,
est-ce qu'il faut quand même pas que la justice fasse son travail.
Il y en avait sous la Quatrième République, il y avait des affaires partout. Dès que vous avez des affaires, et dès que vous avez des hommes en situation de pouvoir, vous avez des tentations. Et les hommes, les femmes aussi, mais les hommes qui savent résister aux tentations sont peu nombreux. Il faut beaucoup de force de caractère pour résister aux tentations.
Mais est-ce qu'il faut tout de même pas que la justice fasse son travail pour que justice soit dite ?
Si vous voulez, moi, je veux bien. Mais je trouve que ça serait nuisible par rapport au travail de la justice qui le fait parfois si lentement, 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 que ça dure pendant des années, des années, des années. Je trouve que se jeter, si elle se jetait sur M. Jacques Chirac, qui n'est plus président de la République, c'est pas Jacques Chirac qui s'est atteint, c'est l'image de la France. Il faut toujours penser à l'image de la France, au pays que vous représentez. Le général de Gaulle, dans ses mémoires de guerre, si vous ouvrez le deuxième volume et que vous preniez le deuxième chapitre, je ne crois pas me tromper, le deuxième chapitre s'appelle le rang, la place de la France. Il est prodigieux. Je n'ai pas toujours été gaulliste. Je suis contre ce qui est le jugement en bloc. Je suis pour le jugement sur un cas, sur un autre cas, sur un, avec beaucoup de respect pour les hommes. Parce que quand on sait que la difficulté de diriger, et que j'entends beaucoup d'hommes qui ne sont pas capables de diriger leur entreprise, qui ne sont même pas capables de diriger leur ménage, arriver avec des solutions pour diriger la France, moi, ça ne me bluffe pas, ça m'agace. Ça m'agace. Le général de Gaulle écrit le rang. Quand même, on devrait penser qu'en 1944, quand la France est mise sur le même pied que les États-Unis, qui sont la première puissance mondiale, économique, militaire du monde, sur le même pied que la Russie, qui a perdu 10 millions d'hommes, 10 millions de soldats, sur le même pied que l'Angleterre, qui a poursuivi la guerre tout le temps, après la défaite de la France, qui n'a pas cédé aux tentatives de paix qui étaient faites, qui ont été transmises par la Suède, et que la France a battu, accablée, n'ayant jamais, jamais, depuis la guerre de Cent Ans, connu une défaite aussi dramatique, aussi profonde, aussi totale, aussi rapide. Elle est ramenée par De Gaulle, parce que De Gaulle est un historien, parce qu'il pense toujours que la France n'a pas commencé en 89, ce qui est une idiotie de le dire, mais qu'elle a commencé depuis les premiers qui se sont appelés les Francs, qui se sont installés sur cette terre et qui ont voulu que cette terre s'agrandisse et qu'elle fasse un bloc. Au fil des... Il faut penser que la Savoie, c'est nouveau, la Savoie, c'est récent, Nice, c'est récent, c'est pas si vieux que ça. Tout ça, le rang, pour De Gaulle, le rang, c'était capital, la place de la France. Et jugé très sévèrement, il avait raison, ceux qui ne tenaient pas le rang. Et lorsqu'il refuse, en 65, que l'on utilise contre M. Mitterrand l'image de M. Mitterrand et du maréchal Pétain, il dit non, je ne le veux pas, je ne veux pas m'abaisser à ça, parce que peut-être un jour, il sera à l'Élysée, il occupera cette place. Donc je ne veux pas qu'il soit abaissé parce qu'il occupera la place suprême. Et je pense que il faut réagir dans ce sens en disant oui, mais quand on atteint l'honneur d'un homme comme l'ancien président de la République, mais c'est la France qui serait atteinte aux yeux du monde entier, c'est pas Jacques Chirac personnellement. Bien sûr, mais c'est la France qui serait atteinte. Alors moi, je pense que ça serait une erreur, que la justice, eh bien, les historiens écriront, les historiens diront, les historiens jugeront, ils auront le temps. Nous sommes, en ce qui concerne Jacques Chirac, le nez contre la vitre. Le nez contre la vitre, on ne peut pas juger. On ne voit pas l'horizon, le nez contre la vitre. Il faut du temps.
Votre avis, tout de même, dans le livre, est un tout petit peu plus sévère que ce que vous dites là.
Je vous lis dans
le livre, sans doute regrettera-t-on tant de chances gâchées.
Oui.
Il avait tout pour être un grand président. Même le peuple, après la fastueuse élection de 2002, lorsqu'il triomphe avec 82%, ces 82% lui auraient permis peut-être d'échapper au train-train gouvernemental habituel du faire du De Gaulle, de saisir l'extraordinaire occasion, là je vous cite, hein, qui lui était donnée pour s'inscrire dans l'histoire en génial. Et il ne l'a pas fait.
Mais il n'a pas fait.
C'est vous qui le dites en creux.
Mais il n'a pas fait, mais parce que je dis aussi, j'ai réfléchi. Je lui ai dit ça. Et puis après, j'ai dit oui, mais il y avait des élections après. Et chacun reprend ses billes. Et il ne peut pas. On rêve, il aurait pu le faire. Il n'a pas fait. De Gaulle aurait tenté, sans doute. De Gaulle. Mais là, il est pris, parce qu'il va y avoir des élections un mois et demi après, comme maintenant, nous y sommes, et que chacun reprend ses billes, et qu'on ne peut pas faire une sorte de grande union nationale, ça n'aurait pas marché, et qu'il n'avait pas, au fond, la stature pour le faire. Vous avez raison de me mettre en contradiction avec moi-même, mais je le dis plus tard, je dis, il aurait pu le faire, mais c'était très difficile, c'était... C'était une politique conduienne dans une situation dramatique. Dans des situations dramatiques, il y a des choses qui sont possibles, mais elles ne tiennent pas debout longtemps. Et puis, avait-il le talent, la stature ? Non, je ne crois pas. On peut regretter, on voit ce qu'il aurait pu faire. Est-ce que ça aurait marché? Est-ce que la partie adverse aurait dit oui? Je n'en sais rien. Il aurait pu proposer une sorte de grande union nationale, un grand travail, on va travailler ensemble, etc. Mais est-ce que les autres auraient dit oui? Il y avait des élections législatives. C'est difficile. Ce qui est passionnant, c'est la difficulté. Ce qui est passionnant, c'est la complexité. La chose la plus merveilleuse en histoire, c'est la complexité. Il faut croire à la complexité. Il faut être l'adversaire du manichéisme, l'adversaire du sectarisme. Il faut se passionner pour ce que l'on fait et comprendre l'histoire, c'est comprendre que les hommes changent peu, étant donné, mademoiselle, que depuis que le monde est monde, on va dans la lune, mais on n'a pas inventé un péché nouveau. Les choses changeront lorsqu'on inventera un péché nouveau. Au revoir, mademoiselle.
C'était donc La fin de règne de Jacques Chirac, expliqué par Henri Amouroux. Vous pouvez également écouter les émissions concernant les fins de règne de Charles de Gaulle et François Mitterrand, également expliquées par Henri Amouroux, qui était dans nos studios pendant une heure et demie. Merci beaucoup, bonne journée.